Toc, c'est parti là ou pas? Oui, ça a l'air parti, hein, quand je... c'est pas grave, on coupera tout ce qui est nouvelle au début. Hein. Alors moi, je... voilà. Alors Christophe, bonsoir. Oui, je commence ma question. Christophe, je te remercie d'avoir accepté une fois de plus de nous faire une conférence dans le cadre des conférences de la SAM. Ô combien intéressante, parce que tu étais directeur du laboratoire de géophysique et de planétologie de l'université de Nantes, professeur à cette université, et en ce moment tu voyages beaucoup parce qu'il se passe plein de choses dans le monde à propos des sondes, à propos des résultats qui vont aller justement investiguer le système solaire. Alors, une des questions, je couperai, hein. Il y a la question bien sûr de la structure de toutes ces planètes, de ces corps, et une des substances qui revient dans toutes ces planètes, c'est l'eau. Et l'eau a une importance assez particulière, elle nous intéresse au premier chef, puisqu'elle est à l'origine, on y reviendra. D'abord, il faut peut-être rappeler ce que c'est que l'eau pour un géophysicien. Peux-tu un peu essayer de résumer ce que c'est, ce que tout le monde croit connaître?
Pour tout le monde, l'eau, c'est le liquide que l'on boit. Mais en fait, l'eau a trois états, un état solide, un état liquide et un état gazeux. Donc, quand on étudie les planètes, on va trouver l'eau suivant l'un de ces états, ou suivant deux de ces états, ou suivant trois de ces états. Enfin, tout dépend des conditions de température, de pression que l'on peut rencontrer sur les planètes. Donc évidemment sur Terre, la Terre occupe une place un peu particulière, puisque sur la Terre, on sait qu'au pôle, on a la glace, donc l'eau sous forme solide, on a les océans, donc l'eau sous forme liquide, et puis dans l'atmosphère, eh bien, on trouve aussi de l'eau sous forme gazeuse.
On a les trois états de l'eau, on a cette chance, on pourrait dire, sur la planète Terre, de connaître ces trois formes de l'eau, parce qu'il n'en est pas ainsi partout, je suppose.
Ben non, on a longtemps pensé que sur Mars, il pouvait y avoir de l'eau liquide, par exemple, qui coulait à la surface, mais on sait qu'il n'y a pas d'eau liquide actuellement à la surface de Mars. Mais par contre, donc, sur les autres planètes, si on fait un petit peu l'inventaire, sur Mars, on a trouvé de l'eau sous forme de glace. On sait que le pôle nord et le pôle sud de la planète Mars est recouvert d'une calotte, et on sait que cette calotte, c'est une calotte d'eau solide. Sur d'autres planètes, on va trouver l'eau sous forme gazeuse. Et ça, on l'a détecté grâce aux observations astronomiques.
Par exemple, sur Vénus, non?
Alors sur Vénus, oui, il y a un peu d'eau. Hein. Ça se compte en parties par million, c'est-à-dire c'est vraiment pas beaucoup. Hein. S'il y a une molécule d'eau pour... il y a une molécule d'eau pour 200 000 particules de molécules.
Parce que l'atmosphère de Vénus est essentiellement du gaz carbonique.
Voilà, là j'avais pris l'exemple de l'azote, mais en fait 97% de l'atmosphère de Vénus c'est du CO2, 3% c'est de l'azote, et puis après on va trouver un petit peu de gaz rare, mais on trouve aussi un petit peu d'eau, H2O. Alors il faut voir que H2O c'est forcément une molécule qui est très courante, l'eau c'est forcément une molécule très courante, puisqu'elle est formée d'hydrogène, et l'hydrogène c'est l'atome le plus abondant, aussi bien dans les étoiles que dans les planètes, dans le milieu interstellaire.
Et même dans les êtres vivants, d'ailleurs.
Et aussi, oui, dans les êtres vivants. Et puis la molécule d'oxygène, qui est aussi une molécule qui est très très présente. Donc c'est les molécules d'eau, c'est normal que l'on en trouve, mais on ne la trouve pas forcément sous ces trois états partout. On va la trouver principalement sous l'état gazeux, en fait.
Alors effectivement, c'est l'eau liquide qui est souvent impliquée dans les mécanismes de la vie, mais la molécule d'eau en elle-même est un corps chimique qui présente des propriétés très intéressantes pour la vie et pour autre chose d'ailleurs.
Pour la congélation.
Maintenant, d'où elle vient cette eau sur les planètes, donc telluriques, les planètes rocheuses, parce que je suppose qu'elle est surtout représentée sur les planètes rocheuses.
Alors tout dépend si les satellites des planètes géantes, on les considère ou non comme des planètes rocheuses. Parce que sur les satellites des planètes géantes, on va aussi trouver beaucoup de molécules d'eau.
Sur les planètes rocheuses, on peut dire. Elles ressemblent beaucoup à la Lune, à la Terre, en fait.
D'accord, à ce moment-là, on peut dire que ce sont des planètes telluriques. Elles ne sont pas rangées comme ça pour l'instant.
D'ailleurs, vous avez le petit travers ou la qualité, d'ailleurs, de les nommer planètes quand vous parlez, vous, dans la planète.
Ah oui, pour vous, c'est des corps.
C'est des planètes. Ouais.
Et donc, on va s'intéresser par exemple à la Terre. Eh bien, sur Terre, l'eau, elle provient de deux sources. La première, c'est interne, c'est-à-dire que juste après l'accrétion, on a eu du volcanisme, un volcanisme très intense, et le volcanisme très intense. Le volcanisme très intense a pour résultat de dégazer l'intérieur de la Terre. Donc on va avoir tous les volatiles qui vont sortir de l'intérieur de la Terre, et parmi ces molécules gazeuses, on a bien sûr la molécule d'eau. Ça, c'est la première source. Et la deuxième source, c'est le bombardement par des comètes de la surface de la Terre. Parce que sur les comètes, on a de la glace ou de la molécule d'eau sous forme gazeuse. Et donc le résultat, c'est qu'on va avoir cette somme d'eau à la fois cométaire et qui provient du volcanisme terrestre.
Donc en somme, l'eau a deux origines. Une origine interne qui provient des roches. C'est le dégazage des roches qui étaient fondues dans la Terre primitive, qui peu à peu est venue en surface. En fait, toute l'eau qui est à la surface de la Terre provient des volcans, donc origine interne, et d'une origine externe, cométaire. Ouais. Et cette eau, elle est piégée dans les roches, ou est-ce qu'elle fait partie des cristaux? Comment ça se présente?
Par exemple, vous avez des minéraux qui sont bien connus, les argiles. Dans les argiles, vous allez retrouver de l'eau. Alors, pas tout à fait de l'eau, mais un groupement, ce qu'on appelle un groupement OH. Donc, dès qu'on va chauffer une argile, on va libérer de la vapeur d'eau. Quoi.
Donc il y a même une origine, on peut dire, chimique de décomposition.
C'est lié au chauffage. Oui. C'est lié au chauffage.
Et alors ça s'est présenté comme ça sur toutes les planètes
Alors on imagine, par exemple, que sur Mars et sur Vénus, la même chose s'est passée. Par contre, l'eau, comme je disais au départ, l'eau sous forme liquide, pour qu'on trouve de l'eau liquide, il faut certaines conditions de pression et de température. Donc on ne peut pas en avoir sur toutes les planètes de l'eau liquide. Et la Terre occupe une position assez particulière. Il faut à la fois ne pas être trop près du Soleil, il ne faut pas être trop loin du Soleil. Et puis il faut qu'à la surface de la Terre, eh bien, il y ait une pression qui soit suffisante pour qu'on puisse trouver l'eau sous forme liquide. C'est ce que je montrerai dans la conférence. C'est que sur d'autres planètes où la pression n'est pas assez forte, comme sur Mars, on passe directement de la forme solide à la forme gazeuse. Donc on n'a pas l'eau sous forme liquide. Et pourtant sur Mars, on voit des canyons, donc on imagine que l'eau liquide, que l'eau a coulé à une période sur Mars. On ne sait pas si c'est il y a plusieurs centaines de millions d'années ou plusieurs milliards d'années.
Donc en fait, il va y avoir des moyens de détection de l'eau. Finalement, tu viens de parler de traces d'écoulement d'eau, par exemple, qui sont un moyen de savoir qu'il y a de l'eau. Et est-ce qu'il y a d'autres moyens de détection de l'eau sur la planète?
En fait, si j'ai bien compris, vous qui traquez l'eau, en fait, on ne traque pas vraiment l'eau, on traque plutôt les conditions nécessaires à l'apparition de l'eau.
Oui, alors moi, je ne traque pas l'eau. Moi, je m'intéresse au processus d'évolution des planètes. Et dans les processus d'évolution des planètes, eh bien, le devenir de l'eau est important. Donc il se trouve que quand on s'intéresse à l'intérieur des planètes, il y a des endroits où on est capable de détecter de l'eau. Donc on a développé des méthodes qui permettent de détecter de l'eau. Alors parmi ces méthodes, par exemple si on s'intéresse à Mars, la méthode qui va être utilisée, c'est une méthode radar. Le radar, on peut mettre un radar en orbite autour de Mars, et le signal radar va pénétrer...
Je peux te prendre un apéritif.
Là c'est foutu, on va voir comment c'est ça. Non mais si vous ne pouviez pas savoir. Non, on va couper, attends, bouge pas. Alors j'étais sur la vie.
Alors l'apéritif.
Tu me dis quand t'es prêt. C'est bon. Hein. Donc pour étudier la structure interne des planètes, on a des techniques. Par exemple les techniques sismologiques, ou bien c'est-à-dire qui consistent à installer des sismomètres à la surface d'une planète. On peut aussi regarder l'intérieur d'une planète en utilisant des radars. Alors les radars, ils ne vont pas pénétrer très profondément à l'intérieur d'une planète. Généralement, ils vont pénétrer jusqu'à quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres à l'intérieur de la planète. C'est des techniques qui sont aussi utilisées sur Terre. Et on envisage en 2003 d'envoyer un radar sur une sonde qui est fabriquée par l'Agence spatiale européenne. Et ce radar, c'est un radar qui est fabriqué en France, avec une coopération avec l'Italie et aussi avec les Américains. Et donc, si jamais il y a de l'eau, par exemple à 300 mètres de profondeur dans Mars ou à 3 km de profondeur, eh bien, on aura une surface qui va réfléchir le signal et ça, on va le détecter très très bien. Et sur Terre, ça marche très très bien aussi. Donc en fait, on est en train d'exporter en orbite autour des autres planètes des techniques qu'on a déjà validées sur Terre.
Alors, concrètement, toutes ces diverses techniques dont vous nous parlez, je suppose que vous les avez embarquées dans des sondes. Autour de quel corps est-ce que vous les avez envoyées? Et puis, je suppose que l'actualité est un petit peu chaude en ce moment.
Alors en fait, on n'a pas le radar, on ne l'a pas encore envoyé sur les sondes. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la sonde Galileo, qui est une sonde qui est actuellement dans le système de Jupiter, et cette sonde Galileo a fourni des informations sur la surface des satellites de Jupiter. Donc, les satellites qui sont assez étonnants sont en particulier Europe, Callisto et Ganymède. Et sur ces satellites, on a détecté des choses qu'on n'avait pas vraiment prévues. Hein. Par exemple, on a trouvé que sur Ganymède, il y avait un champ magnétique important. Oui, c'est pour moi, s'il vous plaît.
Putain.
Je parle de l'eau dans le système solaire, on m'apporte un peu plus.
C'est l'originalité d'Afrique.
Pendant que c'est coupé, cette connerie-là, moi je vais quand même élucider ce mystère, c'est quand même pas possible.
Sur les satellites de Jupiter, on a trouvé des choses qui sont très intéressantes et des choses qui sont très surprenantes. Par exemple, Ganymède, qui est un satellite composé à peu près de moitié de glace et moitié de roche, on a trouvé qu'il y avait un champ magnétique propre pour cette planète, alors qu'on imaginait qu'elle était complètement gelée, donc qu'elle était complètement solide, qu'il n'y avait aucune raison de trouver un champ magnétique. Et on trouve un champ magnétique comme la Terre. C'est-à-dire, elle a un champ magnétique propre. Et pour avoir un champ magnétique propre, il faut qu'il y ait une enveloppe fluide à l'intérieur de la planète, une enveloppe fluide qui soit conductrice. Donc on a deux solutions, soit il y a un noyau de fer liquide à l'intérieur de Ganymède, et ça implique des températures qui sont très élevées, soit autrement, il y a un océan avec des sels dans cet océan, donc cet océan est conducteur, et cet océan est suffisamment important, sans doute suffisamment salé, pour pouvoir générer un champ magnétique. On n'a pas encore d'explication, on ne sait pas expliquer pourquoi il y aurait un champ magnétique, mais c'est une possibilité qui n'est pas on peut pas réfuter pour l'instant.
L'eau a en quelque sorte un rôle de structurer, de texturer les roches qui donnent ou non un champ magnétique en fonction de la fluidité, par exemple la viscosité.
Non, ça ne marcherait pas.
On ne coupe pas la question. Je laisse filer, puis on
laisse filer, puis on reprend. Quoi.
Top. Non, mais c'est bon
parce qu'elle a eu.
C'est bon ? On est parti, ça file ?
Non, c'est pas, ça tourne toujours, vous en occupez pas. Hein.
Donc, Christophe Sautin, cela reste une méthode indirecte de détection de la présence de l'eau entre deux couches, du manteau planétaire de Ganymède.
Oui. Deux couches de glace.
Deux couches de glace, oui. Et c'est une méthode en fait indirecte, comme par exemple, on pourrait aussi penser à la tectonique de la croûte superficielle de Ganymède. On en déduit en fait présence d'un corps fluide en dessous de
ça. Là c'est plus compliqué parce que la tectonique, par exemple, on sait que sur Terre, la tectonique des plaques, hein, donc on a des montagnes, on a des déformations, et c'est pas lié à la présence d'une couche fluide, hein, c'est lié au fait qu'il y a de la convection, mais à l'état solide à l'intérieur de la Terre. En fait, on a du solide qui se déforme à l'échelle des temps géologiques, et ça crée quand même de la déformation. Donc on pourrait imaginer aussi que la tectonique de Ganymède, ce que l'on voit à la surface de Ganymède, c'est lié en fait à de la glace qui se déforme très lentement à l'échelle des temps géologiques. Alors la glace qui se déforme, on en connaît sur Terre, les glaciers se déforment, les glaciers se déplacent, donc même à l'échelle humaine, on voit des déplacements de glaciers. Et ces déplacements de glaciers, ça peut aussi donner donc une tectonique de glace, qui est différente. Donc on n'a pas forcément besoin d'avoir une couche d'eau pour expliquer la tectonique de surface. De même sur Europe, parce que j'en ai pas encore parlé de ce satellite, sur Europe c'est pareil, on voit une tectonique à la surface d'Europe, mais on n'a pas besoin d'invoquer la présence d'eau en profondeur dans Europe pour expliquer cette tectonique. Alors par contre, bon, effectivement, c'est une possibilité d'avoir de l'eau. C'est une possibilité, mais on ne l'a pas démontré, on n'a pas fait la mesure. Par exemple, je parlais de la mesure radar tout à l'heure. Si jamais on avait un éco-radar, ça nous montrerait très nettement l'interface entre une couche solide de glace et puis en dessous la couche liquide. Donc actuellement, quand on lit dans les journaux qu'on a découvert de l'eau sur Europe ou sur Ganymède, on a d'autres explications que l'eau pour expliquer ce que l'on observe, mais l'eau est une explication possible.
Mesdames, messieurs, c'est un machin de Saint-Jacques.
Merci. Je regrette de t'avoir pris ça du coup.
Donc imaginons un petit submersible interplanétaire que l'on envoie vers Ganymède.
il vient de croûtes superficielles solides, faudrait-il creuser pour atteindre cet océan et pouvoir l'explorer?
Alors ça c'est une bonne question, parce que du coup on prévoit, avant d'envoyer un submersible, d'envoyer des techniques qui nous permettent de savoir quelle est l'épaisseur de la croûte. Et donc on a des méthodes pour pouvoir détecter l'épaisseur de la croûte de glace et être sûr qu'en dessous on est effectivement de l'eau liquide. Et ces méthodes sont liées à la mesure du champ de gravité. Alors c'est un petit peu compliqué, hein. C'est lié au fait que quand Europe tourne autour de Jupiter, son orbite est excentrique. Hein. Donc du coup la forme d'Europe change au cours de son orbite autour de Jupiter, hein, et on a des appareils qui nous permettent de mesurer la variation de la forme d'Europe. Et suivant cette variation de la forme d'Europe, hein, on sera capable de savoir, hein, quelle est l'épaisseur de la croûte externe de glace. Donc si jamais on trouve, parce que sur Europe il y a la molécule d'eau, hein, H2O, soit sous forme d'eau, soit sous forme de glace, forme une enveloppe d'environ 175 km d'épaisseur.
Merci.
Je crois que je parle de la bouche pleine.
Merci.
Un excellent habitude.
Merci.
Je pense qu'il faut pas. Ah ben il va falloir. Non, non, moi j'avais une petite question qui. Une question que les gens peut-être doivent se poser, la fameuse rose sur la Lune qu'on aurait trouvée.
Alors ce qu'on a trouvé sur la Lune, c'est en fait la présence d'hydrogène. Et en fait la seule façon d'expliquer l'hydrogène une façon facile d'expliquer l'hydrogène c'est qu'on est de la glace, hein, sur les calottes polaires de la Lune, parce que il y a des cratères, hein, et il y a des endroits sur la Lune qui ne voient jamais le soleil, hein, du fait qu'ils sont au fond des cratères. Donc c'est une des possibilités, mais là c'est pareil, hein, c'est une méthode indirecte, hein, c'est une méthode qui est basée sur la mesure des neutrons rapides, hein, et qui pénètre donc un petit peu à l'intérieur de la Lune, hein, et cette il y a d'autres explications. S'il y a des argiles, par exemple, ça donnerait aussi la présence d'hydrogène. Donc l'eau est une solution. Maintenant, pour en être sûr, il faudrait aller voir.
Alors, là, vous venez de parler de Galileo, donc la sonde qui a étudié le système jovien. Vous participez aussi, il me semble, à la sonde Cassini-Huygens, donc qui recherche certains éléments sur Titan. Au bout du compte, qu'est-ce que vous cherchez? La vie?
Ah non, moi je ne cherche pas la vie. Moi j'essaie de comprendre l'évolution des conditions physiques, chimiques sur les différentes planètes. Essayer de comprendre des processus comme pourquoi est-ce que sur Terre il y a une tectonique des plaques, pourquoi est-ce qu'on trouve pas la tectonique des plaques sur Mars ou sur Vénus. Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé juste après l'accrétion? Pourquoi finalement après l'accrétion sur Terre la vie a pu démarrer après le premier milliard d'années? Quelles étaient les conditions physico-chimiques qui ont permis le démarrage de la vie? Comment ces conditions physico-chimiques étaient différentes sur d'autres planètes, que ce soit Mars, que ce soit Vénus, que ce soit les satellites de Jupiter ou de Saturne? Donc c'est plutôt les mécanismes qui gouvernent l'évolution des planètes qui m'intéressent. Alors comme résultat de ces processus, évidemment, on a la fabrication des atmosphères, on a la formation de l'eau, la formation de l'eau soit sous forme gazeuse, soit sous forme liquide.
Qu'est-ce qu'on fait on mange un peu là,
ouais.
Voilà.
C'est
une petite question.
Si on fait, oui, mais ça va
sur la route à la fin là.
Voilà, ça tourne.
Juste avant que ça tourne là, on a terminé sur
Saturne.
Sur Saturne.
Voilà. Sur Saturne.
Oui. Maintenant c'est la question de la détection et donc ta question sur Chaos.
Voilà, mais avant, tu as terminé la question sur Cassini-Huygens.
Non, on n'avait pas parlé de Cassini, hein, voilà.
On a parlé de l'avant. On a parlé de l'avant. On aurait passé ça, je sais pas.
Donc après Galileo, on a un petit peu évoqué Cassini-Huygens. Dans quelle mesure est-ce que vous avez participé à cette mission?
Pour Cassini, je fais partie de l'équipe de la caméra infrarouge, visible infrarouge, dont l'un des objectifs est de pouvoir cartographier la surface de Titan. Titan, c'est un satellite qui est de la même taille que Ganymède et Callisto, mais l'intérêt de Titan, c'est qu'il est entouré d'une atmosphère, d'azote, dans laquelle on trouve aussi du méthane et de l'éthane. Et pendant un certain temps, les chercheurs français, européens, américains pensaient que cette atmosphère était l'équivalent de l'atmosphère terrestre.
C'est qu'on enregistrait, c'est pas grave. C'est parti.
Et donc, on imaginait que le Titan, qui est un satellite où la température est de 100 degrés Kelvin, c'est-à-dire moins 180 degrés Celsius, avait piégé une atmosphère qui pourrait être l'équivalent de l'atmosphère terrestre lorsque la Terre s'est formée. Donc c'était intéressant parce qu'on avait finalement un modèle de l'atmosphère terrestre au moment de sa formation.
Alors, André Braik a une expression qui est...
Il passe aux choses sérieuses.
Oui.
Oui.
Merci. On appelle ça les choses sérieuses. Oui.
Oui, moi, rien, merci.
André Braik avait une expression qui est sans doute utilisée par d'autres pour désigner Titan. Il disait que c'était comme si on avait mis la Terre au congélateur au moment où elle se formait.
Oui, mais en fait, c'est pas bon.
Ah bon, on enlève pas la question.
Oh, ben, je sais ce que je vais prendre. Je vais prendre un dessert, hein.
Bien sûr.
Est-ce qu'on peut prendre le dessert et envoyer le café en même temps, si c'est possible?
Oui, ben, c'est eux qui vont nous le dire, mais on va leur demander tout simplement. Je vais prendre un café aussi. Il a l'air du boulot de...
À chaque fois, on se dit, il faut qu'on fasse court, qu'on a l'essentiel pour dire. En
fait. Et aussi, c'est un peu...
Avez-vous une dessert?
Oui.
Je vous écoute.
Vas-y.
Crème poulet pour moi.
Crème poulet.
Et une tarte aux pommes.
Une tarte aux filets pommes.
Et chez moi, j'en prends pas, donc...
Café. Café.
Est-ce que vous pouvez m'envoyer les cafés en même temps que le dessert aussi, s'il vous plaît?
Un seul café?
Non, non, non.
Non.
T'en prends? Non, quatre cafés.
Donc,
quatre cafés.
Non, trois.
T'en prends pas, toi? Ah, je crois que t'en prends
trois cafés.
Si.
On va la refaire celle-là parce que tu dis non, le modèle est pas bon. Je veux dire, André Braik prétend. Non, je recommence. André Braik a une expression qui est assez pittoresque pour désigner Titan, pour compare Titan à une Terre qu'on aurait mis au congélateur.
Oui, ça c'est effectivement le modèle qu'on avait dans les années 80, lorsqu'on a conçu la mission Cassini. Mais depuis, on a fait des progrès dans la modélisation de la nébuleuse solaire, hein, et des sous-nébuleuses de Jupiter et de Saturne, et on se rend compte que les espèces chimiques, hein, enfin les gaz, hein, qui étaient présents dans la sous-nébuleuse de Saturne étaient sans doute différents des gaz qui existaient, hein, dans l'environnement de la Terre, c'est-à-dire dans la nébuleuse solaire, dans l'environnement de la Terre, là où la Terre s'est formée. Hein. Donc on peut pas dire que Titan c'est finalement une Terre qui a été congelée. D'abord c'est beaucoup plus petit que la Terre, et puis le rapport entre la quantité d'eau et la quantité de roche est beaucoup plus important sur Titan qu'il ne l'est sur la Terre.
Donc Cassini-Huygens, vous avez déjà eu quelques images puisque là elle est pour l'instant dans le système de Jupiter. Moi j'ai vu certaines images qui sont parues dans le ciel et l'espace, c'est extraordinaire.
Bah, c'est extraordinaire, c'est moins beau que Galiléo, on est loin de Jupiter, mais l'objectif, quand on est passé près de Jupiter, c'était pas tellement de prendre de belles images de Jupiter et des satellites, c'était surtout de tester tous les appareils qui sont à bord. Et les appareils marchent très très bien, donc on est effectivement très satisfait. Dans 4 ans maintenant, en novembre, le 27 novembre 2004, la sonde Cassini fera son premier passage près de Titan. Normalement, elle doit passer à 1200 km de Titan. Et là, j'aurai ma caméra qui sera prête. On a vérifié le pointage de la caméra en se servant justement des satellites de Jupiter pour vérifier que notre pointage marchait très bien. Et tout fonctionne nominalement. Et donc, on a préparé les paramètres de pointage pour le premier survol de Titan en 2004.
Alors, Christophe Sautin, j'aimerais faire un lien entre votre conférence de ce soir et celle de Jacques Lascar sur le chaos dans le chaos dans les systèmes solaires. Est-ce que dans la communauté des géophysiciens, vous envisagez, dans le cadre par exemple de l'échappement d'une planète de son orbite, ce que peut prévoir dans les prochains 100 millions d'années les théories sur le chaos, est-ce que vous prévoyez donc dans ce cadre de l'échappement orbital ou dans le cadre d'une collision interplanétaire, une nouvelle géophysique du système solaire?
Alors moi j'ai pas tellement, je regarde pas tellement les problèmes de collision entre une grosse météorite et puis une planète comme la Terre. Ça c'est le domaine de Jacques Lasker, donc je ne me rends pas très bien compte de la probabilité qu'il y a pour qu'une grosse météorite rentre en collision avec la Terre et que cela modifie énormément les paramètres orbitaux de la Terre. Par contre, ce que l'on regarde, c'est quelle est l'influence des mouvements à l'intérieur de la Terre, donc des mouvements de convection, de la formation de nouveaux volcans à l'intérieur de la Terre sur l'orbite terrestre.
C'est toi, tarte au chocolat ?
Non, c'est une tarte aux pommes, c'est une tarte aux pommes. Tarte aux pommes et crème brûlée, normalement.
Elle est quand même ? On l'a crème brûlée.
Ce que j'ai prêt de faire, moi, je vais y aller en avance.
Une tarte à vérifier, quelle tarte ?
J'ai réglé ça, donc vous partirez comme des fleurs, la tête haute. Et moi, je vais y aller en avance, mais je ne pars pas. Comme ça, vous serez un petit peu plus à l'aise.
Alors, si vous voulez bien une petite question pour conclure, si vous avez fini votre réponse sur le chaos.
Non, mais même, je vais vous le laisser si je vais avoir un
l'air. Ça tourne là, toujours ?
Bah oui, ça tourne. Attends juste un mot.
Oui.
Vous savez l'arrêter ?
Oui, c'est bon.
Tu fais sur off.
Stop
et off. Éteint, tu laisses tout de l'autre. Stop et off. C'est original. Mais non, mais il n'y a pas de stop. Il n'y a pas de stop, c'est off.
Ouais, oui.
Ouais, c'est off direct.
Ouais, ouais. Stop et off. Ouais, ouais. Mais après, il faut
une fois, puis une deuxième fois.
On va y arriver.
Mais la technologie avec la nouvelle génération,
Oui, je vois ce que ça donne. Les micros qui ne marchent pas, la nouvelle génération, elle n'a rien pu faire.
Mais là-dessus, il ne faut pas faire des Windows, hein, sinon.
Il faut démarrer pour arrêter. Là. Je vous laisse le machin.
J'ai les oignons de ma chaise.
J'ai fini la réponse sur le chaos.
Ah oui,
c'est bon. Et tu gardes le sac, là.
Oui, mais t'as eu quoi. Là ça tourne.
Ça tourne, j'attends que Daniel.
Oui. D'après tu pourrais plus en faire chaud.
Je t'ai pris direct.
Ouais. C'était une finish.
Ah non, faut que ce soit.
Au
fait, t'as réservé deux places ?
Oui. J'avais transmis là-bas. Normalement, c'est.
Alors pour conclure, Christophe Sautin, toujours dans le domaine des interfaces qu'il peut y avoir entre votre domaine de la physique, la géophysique et les autres domaines qui étudient le système solaire dans d'autres modèles. Est-ce que vous, avec l'émergence d'une nouvelle branche de l'astrophysique,
la tarte aux pommes,
merci.
Merci.
Je rentre. Est-ce que avec l'émergence d'une nouvelle discipline de l'astrophysique planétaire, l'exoplanétologie, vous pouvez compléter en fait vos études de géophysique sur le système solaire grâce aux apports, d'éventuels apports que peuvent faire des gens comme Mayer et Queloz, les pionniers en matière d'exoplanétologie.
Oui, bien sûr. Simplement, actuellement, les planètes que l'on voit sur d'autres systèmes stellaires, on les voit très très mal. Donc ça ne nous apporte pas des contraintes très très fortes sur par exemple la structure de la Terre ou comment la Terre a évolué pendant les 4 périodes de la première année. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut peut-être mieux comprendre les premiers stades de formation. Là, on a par exemple découvert qu'il y avait des planètes de la taille de Jupiter qui étaient très proches d'une étoile. Bon, ça remet en cause les modèles d'accrétion qu'on avait, parce qu'on n'imaginait pas qu'on pouvait avoir des Jupiters aussi proches d'une étoile. Donc il faut un petit peu repenser les modèles d'accrétion. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant, parce que de toute façon, tous les modèles que l'on bâtit sur l'évolution de la Terre, il faut bien qu'ils partent d'un point de départ, et le point de départ, c'est juste après l'accrétion. Donc on suit ces études-là de façon très précise. Et on se pose aussi la question de savoir quelle est la taille limite. Oui, c'est bon, vous allez.
Il y a là, il est à la.
Il est parti. Il est parti.
Ouais. Tu vois, c'est. Bah.
Non, de marche, je sais pas.
Il y a un café.
Il
y a
là,
un café.
Il
y a pas de café pour nous, là, en fait, c'est ça.
Non, 3 à 3.
3.
Donc pour.
Et pour toi ?
Non, mais c'était pour Daniel, mais je vois qu'il est au bar.
Il est au bar.
Il a commandé la bombe.
Merci.
Qu'est-ce qu'il fait au bar ?
Je sais pas.
Oui, et donc l'autre question qui se pose d'ailleurs, que se posent les gens qui utilisent les exoplanètes, c'est quelle est par exemple la taille limite d'une planète comme la Terre ? est-ce qu'on peut avoir par exemple des terres qui font 12 000 km de rayon plutôt que de faire 6 400 km. Donc là-dessus, on travaille au laboratoire avec Véronique sur essayer de trouver des modèles limites pour avoir des planètes qui soient à peu près de... Enfin, voir jusqu'où on peut fabriquer des planètes comme la Terre. Il y a des planètes qui ont une surface sur laquelle l'eau aurait pu exister sur les trois orbites, glace, liquide et gazeux.
Mais cette proximité dont vous parlez, cette proximité de la planète par rapport à son étoile dans les autres systèmes planétaires...
C'est pas entre les autres, hein, c'est...
Dans plusieurs systèmes planétaires récemment découverts. Ne contraint pas l'hypothèse qu'on a faite dans un déferlement médiatique sur Marcy et Butler, par exemple, les Américains, de l'hypothèse de l'existence possible de l'eau, pour revenir justement à votre sujet, la proximité de la planète par rapport à son étoile... entraîne qu'à la surface de la planète, on a une température de surface qui pourrait laisser valide l'hypothèse de la présence de l'eau liquide. Est-ce que c'est envisageable et on peut aller plus loin que ce cadre-là
dans l'avenir ? On va voir que l'eau liquide, hein, c'est, comme je dis, c'est vraiment des conditions particulières de pression et de température. Il ne faut pas que la pression soit trop forte, il ne faut pas qu'elle soit trop faible, il ne faut pas que la température soit trop forte, il ne faut pas qu'elle soit trop faible. Et il n'y a pas simplement la distance à l'étoile qui fixe les conditions de pression et de température. Il y a d'autres paramètres qui interviennent, comme les espèces gazeuses qui vont être présentes, quelle est la quantité de gaz, donc de l'atmosphère qui est là. S'il y a beaucoup d'atmosphère, la pression devient trop grande et on n'a plus trouvé l'eau sous sa forme liquide. Donc c'est vraiment toute une série de phénomènes qu'il faut étudier. C'est la même chose si on a une planète qui est trop grosse, hein, ça veut dire qu'il va y avoir sûrement un volcanisme qui va être très important, donc une quantité d'eau qui va être énorme, hein, mais ça va être de la d'eau qui va être sous forme gazeuse, et on va se retrouver plutôt dans une situation style Vénus, hein, où on risque d'avoir un dégazage très important, non seulement de la d'eau mais de CO2, un effet de serre très fort, une température qui va être énorme, et donc la vie qui va pas pouvoir se développer, et puis ça va être une atmosphère principalement constituée de CO2. Donc il faut vraiment essayer de cerner l'ensemble de ces paramètres. Il n'y a pas que la distance à l'étoile qui intervient, il y a aussi la taille de la planète.
Ouais. Il faut rappeler effectivement qu'il n'y a pas que la température qui joue sur l'état physique d'un corps.
Non, il y a la pression. La pression, c'est très très important. Ouais.
L'expérience intéressante, c'est de dilater une quantité d'eau dans une seringue et on voit tout de suite qu'elle peut être portée à ébullition à la température ambiante. Donc c'est vrai que c'est lié à la pression aussi. Christophe Sautin, je vous remercie beaucoup et nous n'avons plus au nom de la SAN que vous souhaitez bonne chance dans la quête de l'eau.
Merci.